Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Corentin Mansois, Maïder Gérard, Marguerite Caton, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean-Frédéric. Troisième volet de notre série consacrée au pouvoir des villes, le nouvel empire des villes. Après avoir évoqué le phénomène de métropolisation lundi, celui du front des villes américaines qui poursuivent les efforts en matière écologique malgré le retrait de Donald Trump de l'accord sur le climat de Paris, place aux villes comme laboratoire du renouveau politique et démocratique. Le municipalisme, nouvelle voie de la démocratie locale, c'est notre question ce matin dans Culture Monde.
Nous l'avons dit, nous avons dit que c'était possible et nous l'avons démontré. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à dire. Mais une fois de plus, comme cela s'est produit à d'autres reprises au cours de l'histoire, c'est la victoire de David contre Goliath.
Je vous remercie profondément. Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur d'être le visage de ce projet de transformation durant ces 4 années.
Nous n'allons bien sûr pas seulement gouverner pour ceux qui ont voté en faveur du changement. Nous allons faire en sorte que ce changement se réalise. Changer en mieux, pour une ville plus décente, plus équilibrée, plus juste et cordiale.
Vous m'avez souvent entendu dire à quel point la démocratie est importante et qu'il faut en prendre soin. Et aujourd'hui, je sais que je ne serai plus maire. Je suis certaine, et c'est la richesse de la démocratie, que Madrid continuera d'être une grande ville, progressiste, ouverte, et continuera d'être ce que j'ai toujours dit, solidaire, participative et créative.
On les appelait les villes rebelles d'Espagne, Barcelone, Madrid ou encore Valence, Saragosse, Saint-Jacques-de-Compostelle, dirigées depuis 4 ans par des collectifs de citoyens qui voulaient changer de politique et redonner le pouvoir aux habitants. Voilà que pour beaucoup d'entre elles, l'aventure vient de prendre fin ce dimanche 26 mai lors des élections municipales. Ni à Barcelone, ni à Madrid, ville emblématique, les deux maires, Ada Colau et Manuela Carmena, qu'on entendait à l'instant, issus de la société civile, n'auront su se maintenir au pouvoir avec plus ou moins de succès durant 4 ans. Elles auront tenté de mettre en place une autre gouvernance des villes qui se voulait plus participative et plus démocratique. Cette idée de relocaliser et de démocratiser le pouvoir à l'échelle des villes n'est pas spécifique à l'Espagne, bien sûr, des États-Unis à l'Europe en passant par le Kurdistan. Le municipalisme théorisé par le philosophe américain Murray Bookchin continue d'inspirer de nombreuses expériences à travers le monde. Certains plaident même pour une alliance internationale des villes qui dépasserait les États-nations. Mais suffit-il de prendre le pouvoir pour faire de la politique autrement? Quel bilan en Espagne, 4 ans plus tard, alors que l'expérience s'achève, le pari d'une politique au service et à l'écoute des citoyens a-t-il étaient tenues? Et de manière générale, les villes sont-elles le bon échelon pour expérimenter de nouvelles formes de démocratie directe et participative? Pour évoquer toutes ces questions, 2 invités avec nous. D'abord, ici en plateau à Paris, Magali Fricaudet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes coprésidente de l'Association internationale des techniciens et chercheurs. En quelques mots, cette association?
C'est une association qui travaille sur l'expertise citoyenne au service des résistances et des alternatives locales. Donc on travaille beaucoup sur les propositions municipalistes et aussi sur le droit à la ville et le droit au logement.
À nos côtés, en duplex de Tours, Héloïse Ney, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Tours et chercheuse au laboratoire Cité, Territoire, Environnement et Société. Et vos travaux portent sur les savoirs citoyens, sur la démocratie participative et les mouvements sociaux en France et en Espagne notamment. Et l'Espagne, il va en être beaucoup question, Héloïse Ney, parce que vous le savez, évidemment, il y avait cette caractéristique le week-end dernier du côté de l'Espagne, qu'on ne votait pas seulement pour les européennes, mais aussi pour les législatives et les municipales. Alors, lors des précédentes élections municipales, Héloïse Ney, la grande nouveauté, c'était l'arrivée à la tête de certaines mairies de personnalités qui avaient l'ambition de renouveler la pratique politique. On entendait à l'instant Ada Colau de Barcelone et Manuela Carmen de Madrid. Elles ambitionnaient l'une et l'autre de faire évoluer leur ville et d'une certaine manière d'enclencher un renouveau démocratique. Et il se trouve que ces deux figures qui tenaient les deux plus grandes villes du pays, eh bien, ont perdu dans les municipales. Comment est-ce que vous interprétez, Héloïse Ney, ces défaites? Et est-ce qu'elles sont aussi le signe d'une certaine défaite de leur projet de renouveau démocratique par la ville, Héloïse Ney?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments en fait pour pouvoir essayer de comprendre les défaites. Je pense qu'il y a des éléments qui sont du contexte national, qui sont importants à prendre en compte, et puis d'autres qui tiennent plus au contexte locaux en fait. Si on regarde au contexte national, en fait il y a plusieurs éléments ces dernières années en Espagne. Par exemple, le fait qu'au niveau du débat public, la question du nationalisme et notamment de l'indépendantisme en Catalogne ait pris autant de place, ça a pu jouer contre certaines forces émergentes. Hein. Je pense par exemple à Podemos ou à ces plateformes citoyennes qui étaient sur d'autres problématiques. Donc ça a pu jouer à leur défaveur. Et puis aussi, après, il y a eu un certain nombre de divisions internes, en fait, au sein de ces plateformes. Alors, c'est là où les situations locales peuvent être assez différentes. Hein. Par exemple, à Barcelona en Comú, il n'y a pas eu ces scissions, mais c'est le cas à Madrid ou dans d'autres villes comme Saragosse, où ça a pu clairement jouer contre ces expériences. Et puis après, il faudrait voir plus finement en fait au niveau de chaque ville. Hein. Je pense par exemple à Madrid, c'est assez intéressant de voir qui est-ce qui a voté le plus. En fait, ce sont les quartiers les plus aisés qui se sont mobilisés, qui votent davantage à droite, alors que les quartiers populaires se sont moins mobilisés que les dernières fois. Et là, ça peut être en partie les politiques qui ont été menées qui peuvent être interrogées.
Si on poursuit un tout petit peu, Héloïse Ney, avec vous, et peut-être une analyse, c'est intéressant de regarder ça aussi, une analyse à l'échelle nationale. C'est vrai que le parti Podemos, on s'en souvient, c'était le résultat de ces grandes manifestations citoyennes de 2011 qui avaient secoué le pays, avec ce mouvement de la Puerta del Sol. Et ce parti, Podemos, puisqu'il avait fini par s'institutionnaliser, il avait pour ambition de bousculer le paysage politique. Et ce qu'il était parvenu à faire, hein, puisqu'il avait fait... plus de 20% aux élections législatives de 2015, alors que les conservateurs avaient perdu pas mal de points, plus de 15 points par rapport aux élections précédentes, et les socialistes également avaient perdu des points. Il se trouve que cette fois-ci, le PSOE, le Parti Socialiste Espagnol, remonte, alors que Podemos, précisément, recule. Comment est-ce que vous expliquez ce recul de Podemos ?
Non, voilà, c'est vraiment les deux éléments que je disais. Je pense qu'il y a à la fois le débat public en Espagne qui est moins favorable en fait aux thèses de Podemos. Hein. Clairement, le fait d'avoir autant mis l'accent sur la question catalane, ça a porté préjudice à Podemos, qui a une position qui est pas simple à comprendre en fait dans le contexte espagnol. C'est-à-dire que Podemos va se prononcer en fait pour que les Catalans aient le droit à l'autodétermination, hein, pour qu'il y ait un référendum, mais en disant que eux proposeront de voter contre l'indépendance. En proposant plus un État plurinational. Et c'est en fait c'est une position qui n'a pas forcément été entendue tant en Catalogne que dans le reste de l'Espagne. Et donc, c'est des éléments qui ont pu jouer en sa défaveur. Après, clairement, au niveau de Podemos, il y a eu des erreurs stratégiques en interne et puis des divisions très fortes qui ont aussi pu affaiblir considérablement le parti. Et si on regarde, par exemple, le cas de Madrid, c'est assez emblématique avec, par exemple, si on regarde au niveau des régions. Il y avait aussi des régionales ce dimanche, où le numéro 2, l'ancien numéro 2 du parti, Íñigo Errejón, s'est présenté sur une liste différente de celle de Podemos. Donc ça a clairement joué aussi un certain échec électoral de Podemos à ces élections.
Magali Fricaudet, même question sur l'analyse de ces résultats pour les municipales. On a vu effectivement la plupart de ces villes avec ces maires du changement qui ont perdu en réalité le scrutin dimanche dernier. On sait que ces plateformes citoyennes, elles avaient gagné d'importantes villes grâce précisément à ce mouvement citoyen des indignés. Si on regarde un petit peu les choses, en quoi est-ce qu'il vous semble que les revendications, les aspirations de ce mouvement de Despard, ce mouvement citoyen des indignés, les indignados, ont été trahies, volontairement ou non d'ailleurs, par l'exercice de pouvoir, par les choix politiques qui ont été faits ensuite par les fameuses mairies dont on parle?
Alors, juste, je voudrais peut-être relativiser la défaite. Parce que quand même, le mode de scrutin au municipal en Espagne est proportionnel. Et à Madrid, Manuela Carmena, c'est celle qui a le plus de voix, mais c'est l'union des droites qui s'est structurée entre-temps, parce que Madrid est une ville effectivement très ancrée à droite, qui a en fait permis cet échec.
En 2015, le mode de scrutin était le même, ils avaient gagné, donc bon.
Voilà, mais
les règles du jeu n'ont pas changé entre-temps.
Voilà. Et quant à Barcelone, on est à égalité avec effectivement les républicains de gauche catalaniste. Oui. Et en nombre de voix, on est à 5000 voix près. Mais c'est pareil, c'est une défaite assez relative. Ils vont devoir peut-être pactiser. Mais
défaite quand même. Elles n'ont pas trahi d'une certaine manière les aspirations, les attentes du mouvement citoyen qui en est quand même à l'origine?
Alors, trahir, c'est beaucoup dire. Je crois que le mandat municipal...
Déçu.
le mandat. Moi, je dirais que elles ont fait ces équipes municipales. Elles ont poussé à l'extrême les marges de manœuvre qu'elles avaient dans le cadre de la décentralisation espagnole. Et dans un mandat assez court, qui est un mandat de 4 années, hein, ce qui laisse le temps de faire assez peu de choses, notamment quand on vient des mouvements sociaux, qu'on n'a pas la pratique de l'exercice du pouvoir institutionnel. Mmh. Et je pense pas que ce soit... moi, il me semble que c'est plus conjoncturel que de l'ordre de la trahison. En Espagne, les municipalités gèrent 13% des fonds publics, hein, donc c'est assez peu. Il y a une décentralisation qui a été assez contrainte, notamment par la Ley Montoro, qui est en fait une transposition au niveau local du pacte de stabilité. Hein. Vous savez que l'Espagne a aussi souffert d'un processus de désendettement imposé par l'Union européenne. Donc, je pense que ce sont ce qu'elles ont pu faire en 4 ans. En tout cas, moi, dans le cas de Barcelone, qui est celui que je connais le mieux, montre qu'elles ont réussi déjà à affirmer d'autres valeurs politiques et une autre façon de gouverner, notamment sur l'accueil des migrants, la féminisation de la politique, qu'elles ont pu juguler dans une moindre mesure, certes, mais la spéculation immobilière et travailler sur l'accès au logement. Pour autant, il y a des questions sur lesquelles elles ont peut-être pas été suffisamment au rendez-vous, qui sont les questions traditionnelles de la gauche, la sécurité, notamment à Madrid, à Barcelone, dans le quartier historique du Raval, où là, il y a eu peut-être un certain désarroi
une montée en puissance de cette préoccupation à laquelle finalement peut-être
elles n'ont pas su répondre.
L'équipe municipale n'a pas su répondre, mais on va revenir sur le bilan. Héloïse Ney, dans ce paysage, il y a quand même 2 villes. Qui ont su conserver ces maires de cette fameuse vague d'indignés de 2015. Ces 2 villes, c'est Cadix et Valence. Pourquoi ces villes ont fait exception, Héloïse Ney ?
Ça, c'est intéressant parce que si on regarde le cas de Cadix, hein, c'est une situation particulière. Le maire de Cadix, Clichy, en fait, il vient de l'aile la plus à gauche de Podemos, les anticapitalistes. Et en fait, il a fait sa campagne, en grande partie, à l'écart de Podemos, on va dire, hein. Pablo Iglesias n'est pas venu à Cadix. Donc, il a joué un peu une stratégie un petit peu différente. Et je pense que là, c'est très lié, à mon avis, à Cadix. Au-delà du bilan, effectivement, moi, je suis assez d'accord, hein, sur le fait que le bilan est, il y a un certain nombre d'éléments très, très positifs dans ces mairies du changement. Et à Cadix, il y a aussi, une forte personnalité, de ce maire qui a, contrairement à toutes les autres villes là, qui a renforcé en fait considérablement son score par rapport aux précédentes élections. Il est proche de la majorité absolue alors qu'il était loin de ce score en 2015. Et Valence, c'est une situation différente parce que Valence en fait c'est une ville qui est gouvernée par un parti de gauche régionaliste, un Compromís, et où là ils arrivent à maintenir la mairie mais sans Podemos. Donc c'est pour ça qu'il faut voir un peu les configurations locales à chaque fois qui sont très différentes. Donc effectivement, c'est ces 2 villes qui se maintiennent, mais voyez, en étant un petit peu à l'écart de Podemos, ou en tout cas du courant principal de Podemos. Donc ça va un peu dans le sens où les autres mairies, je pense, ont en partie pâti de alors pas forcément de l'échec, mais en tout cas du fait que le Podemos s'est affaibli au niveau national. Et après, je pense qu'un élément quand même qui est important à ajouter, c'est que ce sont quand même des villes qui ont remporté souvent de justesse les élections les fois précédentes, qui gouvernaient en minorité, hein, dans la plupart des cas. Et vous avez raison de souligner que ça s'est joué aussi de justesse pour Madrid et Barcelone cette fois-ci. Hein, le fait que, par exemple, ce soit pendant tout le début de la soirée électorale, on annonçait que Manuela Carmena allait conserver la mairie à Madrid, par exemple. Ça s'est vraiment pas joué à grand-chose. Et les voix de différence, en fait, ça a été dans quels sont les quartiers qui se sont mobilisés.
Venons-en justement au bilan. L'une et l'autre, vous avez l'air finalement d'être plutôt satisfaite, élogieuse vis-à-vis de ce bilan. J'aimerais qu'on le détaille un tout petit peu. Par exemple, la question du logement. L'ancienne maire maintenant, puisque c'est l'ancienne maire de Barcelone, Ada Colau, c'était une militante qui œuvrait beaucoup pour le mal logement. Si on regarde par exemple, je vais commencer avec vous, Héloïse Ney, en la matière, en termes de politique du logement, quel est le bilan d'Ada Colau ?
Alors, sur les politiques de logement, vous disiez qu'on était assez positive, hein, sur le bilan.
Je me trompe ? Non, vous l'êtes.
C'est un bilan qui est contrasté, en fait. Effectivement, Ada Colau a mis un certain nombre de choses en place sur le logement. Hein, par exemple, en termes de construction de logements sociaux, il y a très peu de logements sociaux en Espagne. En termes de... pour essayer de trouver des solutions quand il y a des expulsions de logements, ou freiner au maximum ces expulsions de logements, ou faire en sorte que les entités financières qui ont des logements vides soient obligées de les mettre en location sous peine de taxes. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites, hein, clairement, en matière de logement. Après, c'est vrai que le bilan reste limité. Je pense aussi au niveau des... C'est lié aux compétences, en fait, que peuvent avoir ces villes en matière de... sur la question du logement, hein, notamment, par exemple, sur comment réguler les loyers qui ont augmenté fortement à Barcelone comme à Madrid, comment... faire en sorte qu'il y ait des, par exemple, pour qu'il n'y ait plus d'expulsion de logements, c'est des décisions qui se prennent aussi à l'échelle nationale. Et là, pas la, le mouvement de lutte contre les expulsions de logements, d'où vient Ada Colau, avait souhaité qu'il y ait une loi qui se passe au niveau national. Et donc, on voit bien que les villes ont essayé de faire un certain nombre de choses à l'échelle municipale, hein, de pousser cette revendication. Mais il y a pu avoir une certaine déception, effectivement, du point de vue du mouvement social par rapport à ça, parce que, de fait, elles n'ont pas pu non plus complètement changer la situation du logement dans ces villes, parce que tout simplement, ce n'était pas complètement de leur compétence.
Magali Fricodet, sur la question du logement.
Bah, oui, je partage tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y avait il y a en Espagne une loi qui a dérégulé les loyers et qui permettait qu'au bout d'un certain délai de 3 ans, les propriétaires augmentent à leur guise les loyers. Il se trouve que, comme le disait Héloïse Ney, il y a très peu d'offres locatives en Espagne, qui est un pays traditionnellement de propriétaires, hein, un phénomène qui a été renforcé par le franquisme. Et il y a eu donc, et il y a une très forte demande, d'autant plus qu'il y avait eu 500 000 expulsions de logements quand même entre 2008 et 2014 de familles, hein, des expulsions hypothécaires, donc de personnes qui avaient accédé à des prêts hypothécaires et donc qui avaient acheté des logements. Donc il y avait vraiment une crise avec un très fort... un très très fort impact social. Et d'ailleurs, je pense que c'est très intéressant de constater que c'est cette question du logement qui a repolitisé la société dans ces villes-là. Mmh. Et d'ailleurs, probablement dans d'autres villes comme à Toronto, où il y a aussi des mouvements très forts. Donc leur impact a été limité, parce que elles se sont battues, elles ont aussi conduit des actions de plaidoyer contre la loi nationale, mais c'est très difficile quand on est une municipalité d'aller au-delà des mesures que vient de décrire Héloïse Ney.
Alors justement, sur cette confrontation avec l'État central et sur ce rapport de force, et du coup sur les marges de manœuvre possibles pour ces fameuses municipalités du changement, Héloïse Ney, en réalité, effectivement, on voit que ces marges de manœuvre, elles sont assez restreintes, et elles ont été encore plus restreintes par le pouvoir conservateur de Mariano Rajoy, avec notamment cette loi dite Montero, dont parlait tout à l'heure Magali Fricodet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler peut-être le contexte de confrontation entre le pouvoir central et les villes qui a conduit justement à cette loi Montero, et en quoi est-ce que cette loi a limité l'action politique locale, Héloïse Ney?
Non, ça c'est un élément qui est central, en fait, pour comprendre justement les marges de manœuvre que pouvaient avoir ces villes et ce qu'elles ont pu effectivement mettre en place. Alors, c'est une loi qui était précédente, en fait, qui précédait l'arrivée au pouvoir de ces villes et qui consiste, en fait, à imposer que tout excédent budgétaire aille au remboursement de la dette plutôt que ça aille dans un certain nombre de programmes d'investissement. Sauf que, en fait, c'est une loi qui clairement a été appliquée de manière particulièrement dure, on va dire. Particulièrement à Madrid et à Barcelone. Donc c'est clairement une question politique, hein, qui est derrière, alors que dans d'autres villes, par exemple, qui étaient gouvernées par le Parti populaire, comme Jaén, par exemple, il n'y a pas eu cette imposition aussi forte de limiter les investissements, les politiques qui étaient prévues, en essayant de donner la priorité au remboursement de la dette. Il y a eu un conflit très fort, hein, notamment avec Manuela Carmena à Madrid, et qui peut expliquer notamment les scissions internes qu'a eu ensuite au sein de l'équipe de Madrid, vu que ça a débouché sur le départ, en fait, de l'adjoint à l'économie de Manuela Carmena, qui a présenté ensuite une candidature différente.
Mais en même temps, donc, on peut voir les choses dans l'autre sens. Héloïse Ney, à Madrid, l'une des réussites justement de Manuela Carmena, c'est d'avoir réduit la dette de 40%. Donc d'une certaine manière, c'est c'est aussi quelque chose qui lacère, même si la capitale espagnole reste l'une des plus endettées d'Europe. Mais quand même, il y a eu du coup, avec cette loi imposée par le pouvoir central, il y a eu des résultats en termes de dette.
Alors effectivement, si on regarde en termes de réduction de la dette, Manuela Carmena a plus que divisé par deux la dette. Hein, c'est en partie le résultat de cette loi, mais ça a limité en fait les projets en termes de politique sociale, hein, qui était vraiment la priorité de ces gouvernements, des politiques de logement, des politiques d'urgence sociale. Et clairement, ça a fait que les projets ont été davantage échelonnés dans le temps. Enfin, il y a eu ça a clairement limité ce qu'ont pu faire ces villes aussi en matière de politique sociale, qui était l'une de leurs priorités, avec aussi cette idée de renouveler après la politique. Hein. C'était vraiment les deux idées, à la fois de renouveler le contenu des politiques et de renouveler la manière de faire de la politique.
L'une des très grandes revendications, j'allais dire même la pierre angulaire et la principale revendication du mouvement des indignés, c'était la participation des citoyens à la chose politique, à la décision politique. Comment ces mairies du changement ont essayé justement d'ouvrir le processus de décision aux citoyens? Comment s'est faite cette institutionnalisation de la participation citoyenne, très concrètement? Parce que sur le terrain, ça veut dire des outils, ça veut dire de nouveaux processus, ça veut dire des choses, Héloïse Ney.
Tout à fait. Alors là, il y a beaucoup de choses qui ont pu être faites. Alors bien sûr, avec des déclinaisons locales qui sont différentes, mais on retrouve un certain nombre d'éléments qu'on trouve dans la plupart des mairies du changement, comme par exemple la question des budgets participatifs. On peut prendre le cas de Madrid. Moi, je travaille plus particulièrement sur le cas de Madrid, qui est vraiment très intéressant en la matière, parce que l'élu à la participation, Pablo Soto, était venu justement du mouvement des indignés, et il a mis en place un certain nombre de procédures qui sont très intéressantes, qui sont en fait des procédures de démocratie directe, qui laissent une place importante aux outils numériques. Et la principale d'entre elles, en fait, c'est le fait d'avoir mis en place une plateforme numérique qui s'appelle Décider Madrid, donc Madrid décide, qui a été ensuite d'ailleurs réappropriée par un certain nombre de collectivités à travers le monde, parce que ça fonctionne avec un logiciel libre. Et les principaux mécanismes qui ont été mis en place à partir de cette plateforme, c'est ce qu'ils ont appelé les votations citoyennes. Donc en fait, c'est proche des initiatives citoyennes qu'il peut y avoir en Suisse, où les citoyens peuvent faire un certain nombre de propositions sur ce site, et si 1% des résidents à Madrid de plus de 16 ans appuient cette proposition, elle fait l'objet d'un référendum qui est décisionnel.
Il y a des propositions qui ont abouti.
Alors voilà, donc ça, en termes de potentiel démocratique, c'est très fort en fait comme proposition. Après, dans la mise en œuvre, il y a eu en fait un certain nombre de limites, c'est-à-dire que Pablo Soto, lui, s'attendait à avoir un débordement citoyen, c'est les termes qu'il utilise, en disant que tout le monde allait faire des propositions. Et finalement, il y a seulement deux propositions qui ont réussi à atteindre cette limite de 1% des votes, qui est une proposition en fait, alors qui s'appelle Madrid 100% durable, qui voulait, si vous voulez, une série de mesures pour une ville plus durable, et une autre qui consistait à avoir un billet de transport unique pour les différents transports en commun en Madrid. Ces propositions, elles ont fait l'objet d'un référendum en février 2017, et elles ont été approuvées à plus de 90% des électeurs, mais c'est quand même une limite dans le sens où il y a seulement deux propositions qu'on réussit finalement par ce mécanisme à faire l'objet d'un référendum. Donc on voit à la fois une volonté très forte des élus, hein, et ça partagé par l'équipe municipale, de faire en sorte qu'il y ait des mécanismes de démocratie directe, et en même temps, dans la mise en œuvre, on se rend compte que les citoyens ne sont pas forcément emparés aussi fortement de ce dispositif-là, et qui montre que finalement ça a eu un impact sur le développement de la ville, si on regarde ce mécanisme, parce qu'il y en a d'autres, assez limité. Surtout que la deuxième proposition, celle sur le billet de transport unique, finalement, ne relevait pas tellement de la compétence de la municipalité, donc ça n'a pas pu être mis en œuvre.
Magali Friconet, pardon, si on regarde justement effectivement ce qui a pu être fait ou pas, Héloïse Ney nous dit que malgré les outils, eh bien, il y a eu quand même au fond un désintéressement assez profond qui fait que tout ça a ses limites. L'un des outils, évidemment, pour faire participer les citoyens, c'est le budget participatif, précisément. Si on regarde par exemple la ville de Barcelone, que vous connaissez bien, en quoi l'outil budget participatif a permis de changer la politique de la ville? Qu'est-ce qui a été fait et qui se démarque de, j'allais dire, des politiques un peu traditionnelles qui se faisaient jusque-là? Ça a changé quelque chose, le budget participatif à Barcelone? Magali Friconet.
Non, parce que, enfin, ça a changé. Évidemment, il y a eu un certain nombre d'investissements dans les quartiers qui ont été faits, des parcs, des maisons, des centres sociaux, des infrastructures très basées sur les propositions citoyennes des quartiers. Bon, pour autant, je pense que le budget participatif, c'est pas la mesure non plus la plus révolutionnaire. C'est une, il y a 3000 collectivités à peu près dans le monde, hein, qui mettent déjà les budgets participatifs. Ça vient de Porta Alegre en 89. Moi, ce qui me semble intéressant dans la façon de gouverner de Barcelona en Comú, c'est aussi ce qu'ils ont appelé la collaboration conflictuelle avec les mouvements sociaux. C'est-à-dire que, en fait, renforcer quelque part le contre-pouvoir sans chercher à le contrôler, ce qui n'était pas facile pour une mairie qui était issue, une équipe municipale qui était issue des mouvements sociaux, de pas rentrer dans les écueils qu'on connaît toujours, d'alimenter le contre-pouvoir qui sert sa cause et donc d'alimenter sa base. Pour autant, il y a eu une réelle transparence dans la répartition, notamment des subventions, et un travail qui s'est maintenu, et elle l'a toujours dit, Ada Colau, on a besoin de votre pression dans la rue, parce que l'opposition est dure, et comme disait Héloïse Ney, il gouvernait en minorité. Et donc cette façon de renforcer quelque part le contre-pouvoir, ça a été très fort. Et leur stratégie d'ailleurs dans tout ce qui est conseil de quartier et autres dispositifs plus institutionnels, ça a été au contraire de renforcer. Enfin, ça a été de renforcer les associations de quartier pour les rendre plus expertes ou financer des expertises citoyennes ou des processus comme cela.
Avant de sortir du cadre purement espagnol, Héloïse Ney, encore un mot sur Barcelone. Ada Colau, l'une des choses qu'elle a mis en place, sur lequel je voudrais peut-être vous entendre, c'est la mise en place précisément d'une entreprise municipale d'énergie pour éviter l'explosion des tarifs des entreprises monopolistiques de gaz et d'électricité. Et elle a engagé également la remunicipalisation de l'eau. Concrètement, comment elle s'y est prise? Comment est-ce qu'on peut faire, parce que évidemment, ça pourrait peut-être inspirer d'autres villes, pour reprendre la main sur un service qui a été confié à des acteurs privés et donc à remunicipaliser le bien commun, parce qu'il s'agit de ça. Héloïse Ney.
Alors, sur le cas barcelonais, je ne sais pas exactement comment s'est prise Ada Colau, parce que moi j'ai plus travaillé en fait sur le cas de Madrid, mais effectivement c'est un des éléments en fait qui est transversal à plusieurs mairies du changement, qui est cette volonté de remunicipalisation d'un certain nombre de services publics. Hein, il y a eu aussi les cas, par exemple, dans d'autres villes, des plages, dans le cas de Cadix, hein, du service des plages, ou des pompes funèbres à Madrid. C'est quelque chose, alors, il faudrait voir dans le cas barcelonais, mais je vois par exemple, dans le cas de Cadix et Madrid, ce sont des politiques qui ont été difficiles à mettre en place, qui ont mis beaucoup de temps et d'énergie, parce que en fait les nouvelles équipes municipales se sont confrontées aussi aux administrations qui étaient présentes et qui ont mis un certain nombre de barrières aussi dans ce qui pouvait être mis en place. Et ça c'est un élément, je pense, qui est assez important à voir, pour voir les marges de manœuvre aussi qu'ont pu avoir ces villes et ce qu'elles ont pu effectivement mettre en place, c'est de voir qu'elles se sont aussi confrontées à un appareil administratif qu'elles ne contrôlaient pas forcément et qui avait un certain nombre de routines, en fait, qu'il fallait bousculer. Hein, clairement, il y a eu un bousculement de ces routines pour changer de politique. Et donc, ces politiques de remunicipalisation d'un certain nombre de services se sont confrontées, en fait, à un certain nombre de difficultés. Mais c'est des éléments qui sont assez intéressants, en fait, dans les bilans, je pense, de ces municipalités.
Alors, toutes ces expériences, elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle le municipalisme, c'est-à-dire ce projet politique qui vise à démocratiser, au fond, la chose politique au niveau des communes, au niveau des municipalités, et donc la réappropriation collective par le bas, si je puis dire, de ce processus décisionnaire. Ce municipalisme libertaire, il a été théorisé par l'écologiste américain Murray Bookchin. Je voudrais qu'on en parle quelques instants, mais d'abord, on va écouter justement la voix de Murray Bookchin, 1985.
L'histoire a pris une tournure très désagréable. Nous avons quitté un certain monde. Son ancienneté dépend de jusqu'où vous remontez. Dans les années 30, les gens pensaient au contrôle de leur vie. On vivait alors dans un voisinage, au sein d'une famille étendue, même dans des villes comme New York ou San Francisco. Il y avait des quartiers richement structurés, des systèmes d'aide mutuelle. Il y avait également dans ma jeunesse une vie politique très intense. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si les gens voulaient aller dans les rues, ils ne sauraient pas quoi y trouver. nous rencontrons une forte centralisation de nos sociétés et de l'État.
Voilà, Murray Bookchin en 1985 lors d'une conférence qui avait été donnée à San Francisco. Magali Fricodet, je vais vous faire travailler un petit peu. Vous allez nous rappeler qui est Bookchin. Vous allez essayer aussi peut-être de résumer en quelques mots sa pensée. Et puis on va essayer de regarder si, au-delà du cas espagnol qu'on a beaucoup évoqué jusqu'ici, on peut dire que ce municipalisme hérité de Bookchin est en train de vivre une forme de regain un peu partout dans le monde. Mais d'abord, revenons aux fondamentaux. Bookchin, le municipalisme, c'est qui, c'est quoi ?
Bookchin était le fils de révolutionnaires russes qui était arrivé en 1905 à New York. Il a grandi dans une famille plutôt d'humanistes de tradition juive. Et puis il a été militant, d'abord communiste, puis trotskiste, et puis anarchiste. Et puis à la fin de sa vie, il a été un petit peu en conflit avec les anarchistes. Parce que justement, il se prononçait pour une partie de représentation. Hein, il pensait qu'il fallait que des coalitions citoyennes se présentent aux élections municipales pour ensuite mettre en œuvre un projet de démocratie directe et d'autogouvernement, qui pour lui était une façon de rendre à la ville sa nature, qui pour lui, et ça on retrouve ici son inspiration utopique, libertaire, hein, c'est l'idée que la ville est avant tout une communauté. D'ailleurs, il s'oppose beaucoup à la vision de la ville comme urbanisation. Ça, c'est d'ailleurs son livre, le premier livre où il parle du droit à la vie, du municipalisme libertaire. C'est son livre « L'urbanisation contre la ville » qui a été publié dans les années 90, donc assez tardivement. Et il veut rendre à la ville son sens de communauté, parce qu'il pense que la ville, c'est avant tout une communauté, un lieu de vie, un espace d'entraide qui a été dénaturé par, effectivement, l'avidité, le profit, l'urbanisation au service des intérêts économiques. Et donc, en cela, il invite aussi à dépasser la lutte des classes, en disant que c'est pas dans l'espace des usines qu'on va changer le rapport de force. Donc évidemment, il s'est un peu frité avec les communistes là-dessus, mais que bien au contraire, il fallait prendre l'échelle territoriale comme l'espace de convergence de différents intérêts de personnes opprimées. Donc Murray Bookchin, par exemple, a pas mal soutenu la lutte des droits civiques, mais les luttes féministes, les luttes pour le droit au logement et les droits économiques, sociaux et culturels. Voilà, il invite, en fait, dans l'espace des villes, qui sont des lieux de vie, ces différents collectifs à faire alliance et à s'organiser pour reprendre la ville à travers donc des assemblées de démocratie directe, puis un projet municipal qui fait l'objet de la prise de pouvoir par les élections. C'est aussi pour lui une façon de s'opposer très fortement à l'État-nation, qui est la source principale de l'oppression.
Je reglisse ma question de tout à l'heure. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ce municipalisme connaît un regain et que, d'une certaine manière, tout le monde est en train de revisiter ce principe-là? Et ensuite, on va revenir justement sur cette opposition avec l'État-nation. Mais sur ce point-là, au-delà de l'Espagne, vous avez le sentiment qu'on assiste là à un renouveau du municipalisme, c'est clair?
C'est sûr. D'ailleurs, on a parlé en Espagne de nouveau municipalisme, et il faut dire que ces municipalités, notamment sous l'impulsion de la ville de Barcelone, qui a quand même des moyens assez forts, et puis quand même une communauté intellectuelle autour de Barcelona en Comú, notamment Joan Subirats ou d'autres intellectuels, a beaucoup travaillé à parce que c'est un mouvement internationaliste, hein, le mouvement municipaliste, et à cette diffusion des principes du municipalisme à travers des laboratoires. Il y a un laboratoire qui s'appelle le Municilab, où ils ont mis en lien des échanges de politiques publiques et des réflexions, notamment avec le secteur de la recherche dans un certain nombre de domaines, qui ont permis d'échanger au niveau espagnol avec les 60 municipalités qui étaient en 2015 des municipalités du changement. Mais aussi, un grand événement, ça a été en 2016, l'événement Fearless Cities. Et ça, ça a été un moment très très fort, qui a réuni à Barcelone 350 municipalités, mouvements sociaux, et qui, justement, promeuvent la diffusion de ces idées, la réappropriation du pouvoir. Et alors, il y a eu des maires plus ou moins institutionnels, mais qui en tout cas se reconnaissent dans ce mouvement. Le municipalisme, en fait, c'est, on peut appeler municipalisme les communautés apatistes qui pour autant ne se reconnaissent pas dans ce mouvement-là. Donc
mais ce qu'il y a au cœur de ce principe-là, de cette théorie-là, c'est la question de l'autogestion. Et là, je me tourne vers vous, Héloïse Ney, parce que pour qu'il y ait autogestion, il faut qu'il y ait décentralisation. C'est-à-dire qu'il faut que les États transfèrent une partie du pouvoir économique et politique vers justement ces villes. Comment est-ce qu'on fait très concrètement pour le faire, Héloïse Ney ? On est dans un moment, on le sait bien, dans une phase d'affaiblissement des États-nations. On le voit bien à travers la montée en puissance des nationalismes, des souverainismes qu'on voit absolument partout, en Europe, aux États-Unis. Donc comment est-ce qu'on fait pour forcer cette décentralisation qui est absolument indispensable justement pour atteindre cette autogestion qui est le cœur du projet municipaliste dans un moment où le souverainisme, le nationalisme s'amplifie? Comment on fait, Héloïse Ney?
Alors comment on fait, c'est pas forcément évident à répondre.
Et pourtant c'est le cœur de la question.
Oui, bien sûr. Ce qu'on peut voir, c'est comment des villes essayent de mettre en place des expériences comme ça dans les contraintes actuelles.
J'entends bien, pardon de vous couper, Héloïse Ney. J'entends parfaitement les expériences au niveau des municipalités. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour forcer les États à faire du transfert de pouvoir? Parce que c'est ça l'enjeu.
Pour forcer les États à faire du transfert du pouvoir, il faut qu'il y ait des changements politiques à l'échelle des États, en fait. Alors, bien sûr, il y a des réseaux qui ont été mis en place. Vous évoquez les Fearless Cities. Il y a eu un certain nombre de réseaux qui sont mis en place. Par exemple, les villes là, espagnoles ont été à l'initiative d'un certain nombre de réseaux comme ça, avec la volonté d'avoir un impact sur ces questions-là, mais si vous n'avez pas des acteurs qui portent ces questions aussi à l'échelle nationale, les villes peuvent pas complètement rechanger en fait les équilibres de pouvoir seulement à partir de l'échelle municipale. Et c'est ça toutes les limites en fait des expériences, notamment les expériences qu'on a pu voir en Espagne, c'est le fait que cette conception du municipalisme, du partage des pouvoirs, si elle est portée seulement à l'échelle locale et si elle n'est pas portée aussi par des acteurs à l'échelle nationale, à un moment donné, il y a un blocage qui se fait en fait. Donc il peut y avoir une mise en réseau des villes pour essayer de présenter comme des formes de contre-pouvoir aussi à ce qui peut se faire à l'échelle nationale, mais en termes de répartition des pouvoirs, des compétences au sein des collectivités d'un État, c'est quelque chose qui doit être porté aussi à l'échelle nationale, sinon on évite bloqué.
Magali Fricaudet, même question et peut-être une piste pour aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on ne peut pas justement, pour aller vers plus de municipalisme, dépasser l'échelle de l'État-nation? Je m'explique. Est-ce que, par exemple, l'Union européenne ne pourrait pas constituer précisément cet acteur qui favorise l'émergence de cette nouvelle forme de république communale? Je prends l'expression à dessein, puisque c'est une expression république communale qui a été introduite notamment dans un ouvrage récent d'un philosophe canadien qui a travaillé sur ces expériences municipalistes contemporaines, qui s'appelle Jonathan Durand-Folco, dans un ouvrage intitulé « À nous la ville, traité de municipalisme ». Est-ce que, par exemple, l'Union européenne pourrait... Est-ce qu'elle le fait déjà d'ailleurs? Est-ce qu'elle favorise l'émergence de ce type de municipalisme?
Non, alors justement, paradoxalement, ces expériences interviennent dans une phase de recentralisation assez forte du pouvoir, notamment par le prisme de la question de la métropolisation, qui souvent recentralise ou en tout cas technocratise, éloigne le pouvoir du citoyen. Et correspond souvent à des volontés d'État, et aussi à cause du fait de l'ajustement structurel en quelque sorte, des politiques d'austérité que subissent les communes, et donc effectivement moins on a de ressources, moins on peut exercer les compétences, parce que des compétences sans ressources, ça sert pas à grand chose.
Donc on peut pas vraiment compter sur l'Union européenne.
L'Union européenne, elle favorise les régions. L'échelle de l'Union européenne, c'est celle de la région. Pour autant, je vois pas encore de mouvement politique dans les élections là de dimanche qui porte cette question.
Passons à l'échelle du dessus, l'ONU par exemple. Est-ce que l'ONU favorise d'une manière ou d'une autre l'émergence, les expériences municipalistes?
Alors, je pense que dans la phase actuelle de blocage assez fort du multilatéralisme, il y a une tendance très forte de l'ONU à recourir aux villes pour la mise en œuvre des grands engagements internationaux. Et en parallèle, il y a un mouvement d'affirmation du pouvoir des villes qui se fait notamment à travers CGLU, qui est l'organisation municipaliste mondiale, qui est d'ailleurs, c'est un mouvement assez vieux, hein, le municipalisme international, puisqu'il a une centaine d'années, il date du congrès de Gand dans les années 1900. Et donc ce mouvement effectivement défend la démocratie locale et l'interlocuteur des pouvoirs locaux vis-à-vis de l'ONU. Et elle défend notamment, par exemple, que dans les objectifs du développement durable qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, 60% de la mise en œuvre de ces objectifs, hein, l'accès à l'eau, la santé, les femmes et l'espace public, tous ces engagements-là, l'alimentation, sont des engagements dont beaucoup de compétences reposent sur les pouvoirs locaux. Donc c'est un petit peu ce plaidoyer-là qui essaye d'être mené. Et c'est vrai que les agences de l'ONU ont cette tendance de recourir aux villes pour la mise en œuvre. Pour autant, le pouvoir décisionnel reste entre les mains des États et il est assez dur à conquérir. On l'a vu dans le cadre de la conférence Habitat 3, hein, sur l'urbain, qui s'est tenue à Quito en octobre 2016.
Et puis le problème de l'ONU, c'est qu'il n'y a pas les moyens.
Et il y a de moins en moins de moyens, effectivement.
On est avec vous, Magali Fricaudet, Héloïse Ney, autour de cette série consacrée au nouvel empire des villes, aujourd'hui municipalisme, quand les habitants prennent le pouvoir.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va poursuivre avec un nouvel invité. La ville peut être le lieu d'une forme de renouveau démocratique, on le disait, mais elle peut aussi être le lieu d'une forme de dérive liberticide. C'est le cas notamment avec la surveillance vidéo et la reconnaissance faciale, une technologie à laquelle de plus en plus de villes précisément se convertissent sous couvert d'impératifs sécuritaires, même si certaines villes essayent de s'en protéger. C'est le cas par exemple de San Francisco.
C'est psychologiquement malsain de savoir que les gens sont surveillés partout sur le domaine public. Par exemple, dans la rue, dans les parcs. San Francisco n'est pas le genre de ville qui a envie de ça. Il existe de nombreuses façons de sécuriser notre société sans vivre dans un état de surveillance.
Voilà, Aaron Peskin du Conseil de surveillance de San Francisco, parce qu'il y a quelques jours, cette ville s'est prononcée en faveur d'un texte interdisant aux services de police et de la municipalité d'utiliser la reconnaissance faciale. Désormais, les organismes relevant de la ville devront obtenir une autorisation pour utiliser les technologies de surveillance. Et par ailleurs, il est prévu qu'on évalue l'efficacité des dispositifs déjà installés. On va retrouver Laurent Mucchielli, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur de « Vous êtes filmé, enquête sur le bluff vidéosurveillance » qui était paru chez Armand Collin l'année dernière. Vous avez mené donc une enquête de terrain, Laurent Mucchielli, sur la vidéosurveillance. D'abord sur le 4 San Francisco, qui est quand même un haut lieu de la high-tech. Hein, on est en pleine Silicon Valley et pourtant, on a pris cette décision qui limite l'usage des nouvelles technologies. Comment est-ce que vous le comprenez? Et peut-être les menaces qui ont poussé cette municipalité à durcir leur usage?
Qu'on peut dire sur la base des recherches, hein, des travaux qu'il y a eu, d'évaluation et de la vidéosurveillance et de la reconnaissance faciale aux États-Unis, ces travaux mettent en évidence essentiellement deux critiques. La première, elle est en termes plus philosophiques, la deuxième, elle est en termes plus techniques ou policiers. La critique en termes plus philosophiques, c'est la question des libertés publiques, bien entendu, et du respect de la vie privée. C'est la question de la dérive potentielle qu'on voit déjà s'opérer dans d'autres pays qui ne sont pas des démocraties, hein, comme la Chine. Donc ça a toujours, depuis le début de toutes ces technologies, ces questions philosophiques, politiques sont tout à fait présentes. Je pense qu'elles le sont également renouvelées là sur la question très précise de la reconnaissance faciale. Et puis après, il y a une question technique qu'il faut jamais oublier, c'est que à chaque fois que nous faisons, nous chercheurs, des évaluations sur l'impact et l'efficacité d'une technologie, nous constatons systématiquement qu'il y a un gouffre absolu entre le marketing des industriels de l'autre, d'un côté, et puis la réalité de la façon dont on fonctionne et de l'intérêt à tout point de vue, y compris policier, de ces technologies. Et en l'occurrence, il y a déjà eu des études sur la reconnaissance faciale qui montrent qu'en réalité, l'intérêt policier de la chose est extrêmement limité.
Je vais revenir sur la question de l'intérêt policier, mais je reste un tout petit instant, si vous le permettez, sur San Francisco. Parce que ce qui est intéressant dans le cas de San Francisco, c'est que le texte va s'appliquer aux agences gouvernementales, à la police et à toutes les agences qui dépendent de la ville, mais pas aux sociétés privées. Est-ce qu'on n'a pas là le risque, au fond, de créer une forme de double régime par lequel le secteur privé pourra faire à peu près ce qu'il veut, alors que le public, qui est quand même censé défendre l'intérêt général, lui, sera entravé?
Oui, alors on voit bien que derrière tout ça, il y a aussi des enjeux commerciaux extrêmement importants. Hein. La reconnaissance faciale, là aussi, appliquée au privé, tout l'aspect clientèle, fidélisation de clientèle, enfin voilà, on voit bien... si on s'en protège pas, on voit bien qu'il y a des comptes d'allumer un ordinateur, on se voit proposer des choses parce qu'on a repéré ce qu'on avait déjà acheté, ce qu'on a des pages qu'on avait déjà visitées sur Internet, etc. Donc ces systèmes-là sont totalement pris aussi là-dedans, hein. Il faut vraiment voir les deux aspects de la chose. Donc dans la logique américaine, on voit bien effectivement le côté ça reste libre du côté de l'entreprise privée au fond. Et là, le seul endroit où on peut agir, c'est ce qui concerne l'espace public et les institutions publiques.
Si on en vient à la question plus générale de la reconnaissance faciale, de la vidéosurveillance et surtout de ce qu'elle peut ou ne peut pas sur la sécurité, il y a beaucoup d'études qui vont dans le sens d'une amélioration de la sécurité grâce à ces dispositifs, mais il y a aussi beaucoup d'études qui vont dans l'autre sens. Vous avez réalisé une enquête de terrain pour essayer de mesurer l'efficacité justement de ce genre de dispositif. Quel bilan vous en faites, vous ? Est-ce que ça fait reculer l'insécurité ou non ?
Alors la réponse est globalement non, et c'est pas mon étude à moi, hein. Quand on fait la synthèse des études qui sont publiées depuis maintenant une vingtaine d'années aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'ai vu quelques travaux en Italie, en Espagne, bon, voilà, il y a un ensemble en fait d'études internationales qui sont globalement toutes extrêmement mesurées, extrêmement prudentes, en tout cas qui redisent ce que je dis tout à l'heure, à savoir qu'il y a vraiment un gouffre entre d'un côté non seulement les promesses du marketing des industriels, mais également les discours politiques, parce qu'on en est là très clairement, comme c'est vrai de manière générale avec les questions de sécurité, on est sur des effets d'affichage et de discours politiques et politiciens en permanence. Et puis la réalité des usages, la réalité concrète, technique, des usages quand on va voir ce qui se passe réellement, où ça n'a pas grand-chose à voir. Alors, pour résumer, l'idée d'abord qu'on serait protégé des choses les plus graves, en particulier du risque terroriste, etc., est une fumisterie. Enfin, il faut dire les choses au bout d'un moment comme elles sont, hein. Et c'est une fumisterie qu'on constate à peu près systématiquement. Les systèmes d'enregistrement systématiquement ne voient rien venir, ne préviennent rien, n'empêchent rien. Ça permet simplement au mieux d'avoir après coup des images, c'est-à-dire après, quand les problèmes ont déjà éclaté et concrètement les gens sont morts. Voilà.
Ouais, on pense là en particulier, Laurent Mukeli, il y a un cas très récent où la vidéosurveillance a joué ce rôle-là. C'est le week-end dernier à Lyon avec cet homme qui a déposé ce colis piégé, qui a finalement été retrouvé, qui a été arrêté. Et on a eu effectivement des images de vidéosurveillance. Mais vous avez raison, ça n'a pas empêché le drame.
Non seulement ça n'a pas empêché le drame, mais les images de vidéos qu'on a eues, vous l'avez vu, sont d'une très mauvaise qualité. Et finalement, on verra à l'issue de l'enquête que c'est probablement pas ça du tout qui permettra son arrestation. Et puis si on veut des exemples, enfin, il y en a tellement qu'on ne sait plus les trouver. Il faut quand même se rappeler de ce qui s'est passé le 14 juillet 2016 à Nice, la grande ville la plus vidéosurveillée de France. Pour au final, sur la zone touristique, avoir un terroriste qui vient faire un repérage des lieux à plusieurs reprises avec un camion interdit de circulation vu son tonnage que personne n'a jamais vu. Et pourtant, les politiciens continuent. La reconnaissance faciale en France a fait parler d'elle il y a peu de temps à nouveau à Nice, parce que le maire de Nice avait fait une grande opération de communication en annonçant qu'il allait tester dans le carnaval. Personne. Alors, il y a eu quantité d'articles de presse au moment de ça, relayant l'annonce et l'effet d'annonce. Il y a eu, par contre, à ma connaissance, zéro article de presse pour aller voir après coup le bilan du carnaval de Nice et d'expérience en question. Et s'il y a zéro article, c'est parce qu'il ne s'est rien passé, que le bilan est zéro. Le bilan, c'est que ça n'a servi rigoureusement à rien. Et comment ça pourrait servir à quelque chose, puisque on nage en pleine crédulité, en fait, dans toutes ces technologies et tous ces discours politiques profitent beaucoup de nous, les nôtres, en tant que citoyens, hein, nos crédulités vis-à-vis des nouvelles technologies. Bon. On en a un très bon exemple. C'était déjà arrivé l'année précédente, en réalité, il y a eu en Angleterre, dans la grande banlieue de Londres, à Notting Hill, il y a eu déjà, lors d'un carnaval d'ailleurs, une expérience également de la reconnaissance faciale. À la différence qu'à Nice, dans reconnaissance, il y a reconnaître, donc on connaît déjà. La reconnaissance suppose qu'on est fiché et qu'on utilise un fichier, sinon on ne reconnaît personne. À Nice, ça n'était pas de marché, puisque de toute façon, des services municipaux ne vont pas accéder à des fichiers nationaux, ni de casier judiciaire, ni de personnes recherchées, ni de personnes fichées S ou autres. Bon. Dans l'expérience anglaise, il y avait par contre une opération de police, et pas simplement un coup de communication municipale, c'était une opération de police avec une connexion à un fichier de personnes recherchées. Le résultat, c'est que à chaque fois, je dis bien, il n'y a pas une exception, à chaque fois que la machine a déclenché une alerte croyant reconnaître quelqu'un, ça s'est avéré à chaque fois faux.
Mais on peut aussi utiliser l'argument inverse, c'est-à-dire, alors après, je ne sais pas, moi je ne suis pas suffisamment spécialiste, mais par exemple sur le cas de la Chine, pour préparer cet entretien avec vous, j'ai vu qu'il y avait eu des cas, effectivement, d'arrestation grâce à la reconnaissance faciale. Alors après, vous me direz, il faut toujours un petit peu se méfier avec les informations qui nous viennent de la Chine, mais enfin, on peut aussi imaginer que ça fonctionne. Et après tout, je vais me faire l'avocat des partisans de ce type de technologie, on peut imaginer qu'elles vont s'améliorer et que la reconnaissance faciale pourra demain, effectivement, arrêter des personnes criminelles.
Alors, il faut bien voir deux choses. Il y a forcément toujours il y a forcément toujours des effets marginaux. Je l'ai montré dans mon travail sur la vidéosurveillance. Quand on regarde, est-ce que même si c'est après coup, même si ça n'a rien empêché, rien dissuadé, rien prévenu, est-ce qu'éventuellement après coup, ça peut néanmoins permettre de retrouver quelques images qui sont utiles aux enquêtes des policiers ou des gendarmes? La réponse est oui. Je l'ai montré, je l'ai chiffré dans mon enquête. La réponse est oui, mais dans une quantité d'affaires toute petite. C'est-à-dire que dès que vous arrivez dans une ville qui veut vous faire d'abord son opération de communication, on va vous dire, bah regardez, dans toute l'année, nous avons arrêté, alors ça dépend de la taille de la ville, 200, 300, 400, 500 personnes grâce à la vidéo, etc. Oui, mais la bonne question, vous savez bien que les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, hein, c'est nous qui les avons parlé, pas plus que les images ne parlent d'elles-mêmes. La bonne question, c'est rapporté à quoi? Ça pèse quoi? Ok, vous me dites que vous avez arrêté 400 personnes dans l'année grâce à la vidéo, mais il y a combien d'actes de délinquance que la police doit investiguer dans toute l'année?
Et puis combien on a dépensé pour justement mettre en place ce dispositif? C'est aussi ça la question.
S'il y a eu en fait 40 000 enquêtes, ben 400, ça fait 1%. 1%. Bon, autrement dit, ça n'a aucun impact global sur le niveau des problèmes. Et effectivement, du coup, ça vous a coûté combien? Et puis, c'est pas fini. Avec l'argent que vous avez mis là, comme on travaille au mieux à budget constant, à tout niveau de collectivité et de décision publique en France aujourd'hui, l'argent que vous avez mis là, vous l'avez enlevé où? Avez-vous évalué l'intérêt qu'il y a à le mettre là? Avez-vous évalué l'intérêt qu'il y avait à l'enlever là où vous l'avez enlevé? Toutes ces questions, si on était rationnel, c'est celle-ci qu'il faudrait poser. Mais je répète, nous sommes aujourd'hui dans un système où, au fond, un mélange, de crédulité générale dans l'effet forcément merveilleux des technologies, hein, c'est une espèce de mythe collectif, deux, la communication politicienne, trois, le marketing des industriels, passent leur temps à, disons les choses, à nous faire prendre des vestis pour les long terme et à nous faire croire à des miracles, là où il y a simplement des effets beaucoup plus mesurés et qui, par ailleurs, coûtent très cher.
Merci beaucoup, Laurent Mucchielli, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et auteur de cet ouvrage. Vous êtes filmé. Enquête sur le bluff vidéosurveillance, qui était paru chez Armand Collin.
Construis dans ta tête une ville, dans la chaude torpeur d'un été. Les robes de coton des filles, leurs tresses nattées de fleurs coupées. En riant, elle fuit les garçons. Des jardins viennent des flonflons. Construis dans ta tête une ville, dans la chaude torpeur d'un été. Le soir aux terrasses, le vin brille. La nuit prend toute sérénité.
Merci beaucoup à nos deux invités. Magali Frécodec est avec nous aujourd'hui ici à Paris. Je rappelle que vous êtes coprésidente de l'Association internationale des techniciens et chercheurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je remercie également Héloïse Ney qui est avec nous en duplex de Tours, maître de conférences en sociologie à l'université de Tours justement et chercheuse au laboratoire Cité, Territoire, Environnement et Société. Merci beaucoup à tous les deux.
C'est gros, c'est noir, ça hurle, ça crache. C'est chenillé, armé, blindé. C'est surmonté d'un fort canon et de plusieurs gueules casquées.
11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian. Le savoir est tellement compartimenté en disciplines étanches de nos jours que les esprits réellement universels sont devenus bien rares. Et pourtant, les défis que nous avons à affronter sont tellement globaux qu'y faire face requerrait plus que jamais de tels généralistes. Trop souvent, leur place est occupée par de vulgaires idéologues. Leur mantra donne facilement l'illusion qu'ils ont réponse à tout, alors même que les fausses solutions qu'ils préconisent se révèlent soit irréalisables, soit désastreuses. Jared Diamond fait partie de ces quelques rares esprits universels. Ornithologue, biologiste, ce darwinien est devenu professeur de géographie à UCLA où il s'est spécialisé dans les études portant sur l'environnement. Mais c'est également un historien et un anthropologue, bref, un homme de science également capable de mobiliser toutes sortes de compétences pour aborder avec un regard renouvelé et expert les grandes questions de notre temps. Tous ces grands livres, traduits en français, ont de fait été des succès mondiaux et en particulier je pense à l'essai intitulé « Effondrement », sous-titré « comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, qui montrait que l'impact sur l'environnement constituait un facteur décisif de survie. Or voilà que Jared Diamond revient avec un livre établissant des parallèles entre ce qu'il sait de la psychologie de l'individu et le comportement des peuples face à des défis existentiels. Son titre, Upheaval, bouleversement, sous-titre, comment les nations font face aux crises et aux changements. En fait, c'est un essai consacré à la résilience, utilisant l'étude d'une douzaine de cas concrets dans l'histoire récente. Le défi, tant pour les nations que pour les individus en crise, écrit-il, est de déterminer quelle part de leur identité fonctionne déjà bien et ne nécessite pas de changement, et quelle part ne fonctionne plus et doivent être changées. Alors, quelques exemples. Le terrible défi lancé aux Japonais au milieu du XIXe siècle lorsque des navires de guerre occidentaux sont venus exiger l'ouverture commerciale de leur pays. Les élites japonaises se sont alors divisées en trois courants. Certains refusaient tout accommodement avec l'Occident et prenaient une fermeture étanche du pays face à la culture et à la science des barbares. Les responsables militaires, conscients de l'infériorité technique de l'armée, prônaient, eux, une ouverture et une adaptation limitée, notamment dans le domaine des armements. Mais ceux qui l'emportèrent, c'est ceux qui prônaient une réforme radicale du pays, le fameux Meiji. Notamment les samouraïs, qui formaient déjà à l'époque une bureaucratie capable d'encadrer la modernisation de la société. Et sous leur influence, le pays allait devenir le plus puissant d'Asie dès le début du siècle suivant. Ils n'étaient pas moins nationalistes que les partisans de la fermeture sur soi des îles du soleil levant, mais ils voulaient renforcer leur pays afin de le mettre sur un pied d'égalité avec l'Occident. Et leur triomphe est devenu éclatant lorsqu'ils ont vaincu l'armée russe en 1904 et 1905. Par contre, la défaite survint lorsqu'ils défièrent les États-Unis en 1941. Deuxième cas d'école, la Finlande. Suite au pacte germano-soviétique, l'armée rouge a attaqué ce pays le 30 novembre 1939. 47 fois plus peuplée que la Finlande et combattant à 4 contre 1, la supériorité des soviétiques était écrasante. Mais habitués à combattre par grand froid, habités d'un esprit de résistance patriotique bien supérieur à celui de leurs envahisseurs, les Finlandais ont infligé de telles pertes à cet envahisseur que Staline préféra négocier et qu'il se contenta de l'annexion du 10e du territoire. Les Finlandais, de leur côté, avaient perdu 100 000 hommes, soit 5% de la population masculine, tous âges confondus. Alors pour Jared Diamond, c'est l'origine de la fameuse finlandisation qu'on a tellement reprochée à ce pays durant la guerre froide. Mais en acceptant de s'auto-censurer, de limiter l'exercice de leur démocratie de manière à ne pas chatouiller les voisins soviétiques, les Finlandais ont préservé leur indépendance. Tout État, rappelle Jared Diamond, doit s'incliner devant ce qui apparaît historiquement inévitable. La grande différence entre les cas du Japon et de la Finlande, c'est que le premier constituait et persiste à former une nation ethniquement homogène, tandis que la Finlande, longtemps vassalisée par la Suède, était historiquement divisée entre Suédois ethniques et Finlandais ethniques. Les Suédois avaient longtemps formé les classes supérieures et d'ailleurs le général Mannerheim, qui dirigeait l'armée finlandaise en 39-40, était lui-même ethniquement un Suédois. Mais le pays a su surmonter cette division et forger, lors d'une épreuve mettant en péril son existence même, une unité nationale inébranlable, malgré, ou peut-être à cause, de l'effroyable guerre civile qu'il avait connue en 1918. Pour Jared Diamond, pour faire face aux bouleversements, individus comme nations doivent respecter plusieurs règles. Assumer ses propres responsabilités et ne pas s'en décharger sur des boucs émissaires. S'estimer soi-même ainsi que sa situation sans complaisance et avec lucidité. Accepter d'apprendre de l'expérience des autres avec humilité. Conserver une grande capacité de compromis et savoir qu'elle peut exiger parfois d'avaler des couleuvres.
Merci Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.